Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, vous allez entendre un témoin clé, un homme, une femme, qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jérôme Florin, je suis journaliste à RTL et je me suis intéressé pour cet épisode à l'un des pires tueurs en série français, Francis Holmes. Vous le revoyez, ce visage, ses grosses lunettes, ses lèvres pincées, presque inexistantes, et cette allure de grand échalas mal fagoté. Francis Holmes, c'est une très longue route jalonnée de meurtres. Il tue des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Il n'a pas de cible, pas de mobile. Francis Holmes a été reconnu coupable de 11 meurtres. Sa dernière condamnation définitive date de juin 2020. Mais Francis Holmes, c'est bien plus que 11 meurtres. 11 pépins, comme il les appelle. Dans ce curieux langage codé, qu'un seul homme s'est vraiment déchiffré. Cet homme, c'est Jean-François Abgral, un ancien gendarme. C'est lui qui a découvert Francis Holmes. Nous sommes en juin 1989. Il enquête sur le meurtre d'une femme de 49 ans, Aline Pérez, dont le corps sauvagement poignardé a été retrouvé sur une plage près de Brest. De fil en aiguille, le nom de Francis Holmes apparaît pour la première fois. Jean-François Abgral est appelé pour l'interroger. C'est le début d'une longue relation. Jean-François Abgral est la voix du crime de cet épisode.
Moi, je le recherche uniquement parce que j'ai son nom sur un registre de foyers de gens qui ont séjourné non loin de la scène de crime, à Brest. Et potentiellement, il pourrait très bien être dans le périmètre au moment des faits. Donc pour moi, c'est un témoin. Et comme je ne le trouve pas, il n'a pas d'adresse, je l'ai mis en recherche. Et c'est comme ça que je vais le rencontrer. Il est contrôlé, lui, un jour du mois de juin 89, par des gendarmes à Blainville-sur-Lot. Alors Blainville-sur-Lot, c'est une toute petite commune de Normandie. Et il est détenu là-bas le temps que j'arrive. Donc moi, je mets 3 heures de route pour le rejoindre. Et quand j'arrive, les gendarmes du coin me préviennent en me disant « Attends, c'est un drôle de personnage, tu vas voir, il est bizarre. » Effectivement, j'ai quelqu'un qui fait physiquement, qui déjà dégage quelque chose. Il fait 1m90, il est très maigre, il a le visage défiguré par une grimace permanente. Il est complètement crispé et on sent quelqu'un de très nerveux. Sauf qu'il ne demande pas pourquoi il est retenu, à la grande surprise de tout le monde, parce que c'est la première chose que chacun fait quand il est arrêté. Il ne demande pas. Et il est là dans une pièce, il n'a pas de menottes, il n'a rien. C'est juste un témoin que je demande à voir. Et il observe, je regarde par la porte qui n'est pas fermée, je l'observe un peu pour évaluer le personnage avant de l'entendre. Je fais cette chose qu'on fait en tant qu'officier de police, on essaie de trouver... la meilleure façon d'aborder une communication avec quelqu'un qu'on retient, donc, parce que sachant que une garde à vue, on impose ça aux gens, donc il y a pas forcément de sympathie de la part de la personne à qui on a demandé des choses. Donc je l'observe et je vois qu'il est très attentif à la fenêtre, la porte, enfin des choses comme quelqu'un qui est enfermé et qui est prêt à bondir pour sortir. Donc je sens qu'il faut pas traîner et je rentre dans la pièce. C'est comme ça que ça se passe. Et là, dès que je passe la porte, son regard va se caler sur moi et il va plus me quitter des yeux. L'objet, c'est de pouvoir vite rentrer en communication. Donc, je montre pas ma surprise. En tout cas, j'essaie de pas la montrer. Et je vais vers lui en lui tendant la main. Je dis bonjour. Je m'appelle Jean-François Abgral. Vous êtes Monsieur Holmes. Et je lui tends la main. Et là, il me tend la main de manière obligée. C'est-à-dire qu'on sent que c'est pas quelque chose de naturel chez lui de serrer la main. Il m'attrape le bout des doigts et il les relâche presque instantanément. Comme si j'avais quelque chose sur la main qui le dérangeait, quoi. Je ne laisse pas la pression retomber. Je dis, bon, écoutez, asseyez-vous, il va falloir qu'on parle un petit peu. Et je suis entouré d'autres gendarmes, les deux gendarmes de la brigade, et un collègue de Rennes qui m'a accompagné. Et ils sont tous en uniforme, sauf moi. Et du coup, il doit déduire que je suis le chef. Enfin, c'est vrai que j'ai mené l'entretien d'entrée de jeu, donc il s'est dit, bon, c'est à lui que je dois parler. Il est attentif à ces choses-là, lui. Et ça, mais à l'époque, je le savais pas, mais c'est quelque chose qu'il observe.
Jean-François Abgral observe, lui aussi, ce Francis Holmes qui ne laisse pas indifférent. Le physique singulier, tout d'abord, de ce géant qui ne fait pas son âge, ses manières, son attitude, et puis cette voix.
Alors sa voix est monocorde, c'est-à-dire qu'il est toujours dans la même gamme, on n'a pas de variation. Et il est très... C'est toujours sur le même ton, en fait. C'est très dérangeant, au final. Il a une petite voix, c'est pas quelqu'un qui parle fort. Et c'est toujours dans la même tonalité. C'est assez étonnant. Bon, après, il faut s'adapter à ça. Moi, je fais en sorte qu'il n'ait pas l'impression que ça m'impacte ou que ça me surprenne, en tout cas. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Je me dis, mais mon sang, c'est quoi ? Il me tutoie, mais il me dit, qu'est-ce que tu veux savoir ? Je dis, écoute, explique-moi comment tu es arrivé sur la route. Et c'est comme ça qu'on démarre d'entrée de jeu. Aussitôt, dans les 15 secondes qui suivent, alors que je n'ai pas encore fini de terminer mes formalités, il me dit, après la mort de ma mère, moi, c'est d'ailleurs, elle est décédée le jour du meurtre du petit Grégory. Intérieurement, je me dis, mais quelle référence, quoi. Et il continue, et il me dit, ça fait boum dans ma tête, je ne pouvais plus rester chez moi, je suis parti sur les routes, et sur les routes... Des fois, je me sens pas bien. D'abord, il me raconte qu'il a fait son service militaire à l'armée et que ça lui a. Il a vécu des choses traumatisantes. Alors, je lui demande quoi ? Elle me dit j'étais choqué d'apprendre comment on tue une sentinelle. Et là, il se lève et il me fait un mouvement. Il me mime ce qu'il a appris à l'armée. En fait, c'est exactement ce qui est arrivé à ma victime à Brest. Sur les 5 premières minutes, ou on va dire les 10 premières minutes de discussion comme ça, informelle, juste on s'installe, je tape les formalités, il commence, il m'évoque déjà la mort de sa mère, la mort du petit Grégory, et il me décrit un meurtre dans la foulée. En fait, il est complètement habité par des scènes de violence, et quand il parle, il va beaucoup moins vite que moi dans le débit, il distribue ses mots, lui. C'est-à-dire, quand il va me mimer le meurtre de la sentinelle, il va vous dire, voilà, il faut l'attraper de la main gauche, il faut lui lever la tête en mettant sa main à l'envers, il faut frapper au cœur et dans les reins, enfin, c'est si on veut. Voilà. Mais il observe en disant ça, il observe ce que ça vous fait. Tout ça avec un visage extrêmement crispé et pas. C'est pas de l'humour, il n'y a pas un pet d'expression, quoi. C'est froid.
Cet autoportrait, violent, spontané, étonne Jean-François Abgral. Ce Francis Holmes semble étrangement mêlé au meurtre d'Aline Pérez, l'aide-soignante assassinée sur la plage de Moulin-Blanc, près de Brest. Le gendarme est-il sur le point d'obtenir des aveux ? Francis Holmes est-il l'homme qu'il cherchait ?
J'ai compris immédiatement qu'il avait probablement un lien avec mon histoire. Je me suis aperçu qu'il n'avait pas fait de service militaire, que c'est pas une technique de neutralisation de sentinelle que d'attraper une victime par le cou, le cœur et les reins tel qu'il a décrit. Par contre, je suis obligé de le relâcher après cette audition-là parce qu'il a un alibi imparable, c'est-à-dire qu'à l'heure du meurtre de la femme de Brest, lui est soi-disant hospitalisé à Quimper, c'est à 80 km, et à Quimper, on lui a pris sa température, c'est ce qui ressort de son dossier médical, on lui a pris sa température à 17h, et c'est exactement l'heure du meurtre. Donc je ne peux pas l'impliquer, je suis face à une incohérence, je ne peux pas aller plus loin. Il faut savoir qu'une garde à vue, c'est 24 heures pour une enquête, éventuellement renouvelable de 24 heures, et cela, quelle que soit la durée de l'enquête. Si mon enquête dure 3 ans, ben j'ai le droit qu'à 24 heures, peut-être 48, mais pas plus. Je ne peux pas le reprendre indéfiniment comme ça dans mon histoire. Donc je suis obligé de le relâcher en me disant... Bon sang, ce gars-là, c'est vraiment une énigme. Il y a quelque chose, il faut que j'aille voir pourquoi il a un alibi et pourquoi il m'a parlé de ça. C'est quand même, quelque part, pour moi, il n'y a pas de place pour le hasard. Il a dit des choses trop précises pour que ce soit incohérent. Suite à son audition, je vais trouver un témoin qui montre qu'il était sur la plage de Brest au moment du meurtre et non pas à l'hôpital à Quimper, où on a soi-disant pris sa température. Ce qui me permet cette fois-ci de le réentendre sur le fond du meurtre de Brest, sachant qu'entre-temps, j'ai recoupé son parcours avec d'autres crimes. Qui ont été commis de manière similaire, avec la même violence que Brest, là où il est passé. Donc je vais le voir, et il est rendu, lui, en Alsace, à Bischwiller, qui est un village à côté de Haguenau. Et il me reçoit, et c'est là je suis encore étonné, parce que je l'ai vu deux fois entre-temps, il n'a pas la notion du temps. Il vous reçoit comme si vous veniez de partir 5 minutes avant. C'est-à-dire qu'il va finir les phrases qu'il avait commencées 3 mois ou 6 mois avant. À la même tonalité. je vais m'apercevoir après que dans sa structure psychique, dans son comportement, si vous voulez, il n'a pas accès à certaines choses que nous, on a. C'est-à-dire que la notion du temps, il n'a pas. Aujourd'hui, il est incarcéré. Quand vous lui demandez comment ça va, ben, il vous dit « j'attends ». Ça glisse, en fait. Je l'interpelle et je le conduis de Bischwiller à la section de recherche de Strasbourg. Je lui notifie encore ses droits. Il me dit que finalement, il n'a rien à voir. Même s'il a des fois l'impression d'avoir commis ce meurtre à Brest au point d'être hanté de ça, et qu'il a même l'impression d'avoir du sang sur les mains, et la sensation est tellement forte qu'il est obligé d'aller se laver les mains pour voir si c'est vrai. Je le cite hein, en parlant comme ça. Et à ce moment-là, il doit être en gros midi 30, 13h. 13h, je sais que l'audition risque de durer des heures et des heures. Donc je dis, bah, écoute Francis, on va faire un temps de repos, on va arrêter, on va descendre déjeuner ensemble au mess de la gendarmerie. C'est un petit resto dans la gendarmerie. À cette heure-là, il n'y a plus personne, donc je sais que voilà, je mets personne en danger. On descend tous les trois, mon coéquipier et moi, et Francis. On s'installe, le gérant du mess me dit, bah, écoutez, il y a une table au coin, là-bas, il n'y a personne, mettez-vous. On s'installe vite fait, il est content, il y a une choucroute en plus, il est fier, parce que lui, il est lorrain, et il y a une petite rivalité avec les Alsaciens, donc il est content de manger une choucroute, il me parle de ça. Et à ce moment-là, il y a un autre gendarme qui, lui, est à la bourre aussi pour venir déjeuner, qui se greffe à notre table, sans savoir que Francis Homme est en garde à vue. Alors, Francis Homme, il n'a pas de menottes, il est juste en survêtement, parce que c'est à l'époque il était habillé comme ça. On est tous les quatre là. Bien sûr, je l'ai à l'œil, mais bon, il n'y a pas d'hostilité ni quoi que ce soit. On n'est pas entre copains non plus. On est tous assis là. Et Francis prend son couteau et dit, en parlant de la victime, enfin, il dit, elle avait l'air gentille, la femme à Brest. Eh ben, je lui ai ouvert la gorge, et là il mime encore une fois le même geste que la fois d'avant. J'ai ouvert la gorge, j'ai mis un coup de couteau au cœur, un coup de couteau dans les reins. Et là on est tous sidérés. Le gendarme qui est à côté de nous, lui, il se demande de quoi on parle, et ce que c'est. Au début, il pensait que c'était une blague ou quelque chose. Enfin, je le vois figé, il part, il va voir le gérant en disant « Attendez, c'est quoi les gars de Rennes, là, ils sont avec un fou ?» Voilà, sur ce, je dis « Écoute, Francis, si tu veux parler de ça, c'est pas maintenant. » Donc on se lève, on remonte au bureau. Au bureau, je reprépare les documents qui reprennent l'audition. Et il me dit, bah, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus ce que je t'ai dit. Je suis arrivé à penser qu'il aimait bien les espaces que j'ai appelés les espaces interstitiels. C'est-à-dire qu'il parle quand ça ne lui coûte rien, quand il sait qu'on ne peut rien en faire. Vous savez, l'affaire de Montigny-les-Metz dont on a beaucoup parlé, je ne sais pas combien de gardiens de prison, de policiers qui ont assuré les transferts entre les maisons d'arrêt et les tribunaux pour aller à ces audiences, je ne sais pas combien ont eu des confessions de Homme qui ont dit bah, « écoutez, j'ai bien tué les enfants ». Mais après, à l'audience, il ne dit rien. C'est comme ça. Francis, il est comme ça. C'est quelqu'un qui joue avec les autres. Alors je lui dis bah, « écoute, essaie de te rappeler, quand tu es arrivé à Brest, ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, et on va démarrer de là, et peut-être que tu vas te rappeler ce que tu viens de me raconter. » Et il me dit, mais moi, à l'époque, j'avais des crises. Je voyais rouge, et j'ai le goût du sang dans la bouche. Et quand il me dit ça, moi, j'ai toujours les yeux sur mon ordi en train de préparer mes trucs. Je sens son souffle le souffle dans sa voix qui commence à se saccader. Et je lève les yeux. Et en fait, ses yeux ne sont plus blancs, ils sont rouges. Mais pas rouges, injectés de sang comme on peut avoir quand on est fatigué. Lui, c'est deux boules rouges. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Et en fait, il est en train de pomper avec ses mains, en serrant ses poings, pomper son sang, comme on le fait pour une prise de sang. Il est raide comme un bout de bois, et il est en face de moi comme ça. Et quand il dit qu'il a le goût du sang et qu'il voit rouge, je vais bien croire, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un afflux sanguin qui arrive là, au niveau de la tête, qui se traduit par des yeux rouges et peut-être le goût du sang. Parce que c'est des expressions qu'on connaît en tant qu'enquêteur, j'ai vu rouge pour passer à l'acte. Là, par contre, lui, il voit rouge, je pense. Il revit, et il se transforme, il est en crise. Donc je saute par-dessus mon bureau, je l'attrape par le bras et il est raide comme un bout de bois. Il n'a aucun geste hostile, hein. il est juste tétanisé. Et on va marcher dans les bureaux qui sont rectangulaires, il y a des couloirs très larges à Strasbourg dans ces bureaux-là. Donc je sors de mon bureau, je vais dans les couloirs et il marche, je vous dis, fait 1m90, il marche tout droit, comme ça, comme un robot, très vite. Et moi je cavale à côté en le tenant, je suis 1m78. Et tous les bureaux qui s'ouvrent en disant « c'est quoi cette histoire ?» je fais appeler un médecin, etc. Son état n'est pas incompatible avec une garde à vue, c'est juste qu'il déclenche ça. Plus tard, je vais questionner des légistes à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, et je ne pensais pas que ça puisse exister. Et certains m'ont dit qu'effectivement, on peut se déclencher, certaines personnes arrivent à se déclencher des montées sanguines comme ça, extrêmement fortes et violentes. Voilà, c'est physiologique, on peut rien y... Voilà, il y a des gens qui arrivent à faire ça. En l'occurrence, bah, lui, il peut faire ça. Mais quand il fait ça, je me dis qu'il fait peur. C'est un personnage. Francis Holmes, contrairement à ce qu'on peut penser et ce que j'ai pu entendre, c'est pas quelqu'un qui ment, en fait. Il s'est déclenché cette crise parce que je lui ai demandé de se remettre dans le même état. Donc il va me décrire la situation de la plage, avec la victime sur la plage, parce que le meurtre a lieu là, sur une plage, qui est une plage très fréquentée. Hein. Il y a du monde à 20 mètres de la victime à ce moment-là. Et je lui fais faire un croquis, parce que c'est beaucoup plus simple que d'expliquer les choses. Et là, je m'aperçois qu'il est très scolaire, presque comme un petit gamin de 8 ans ou 6 ans qui fait ses premiers dessins et qui apprend à faire des angles droits. Il me fait un croquis de la plage et de la scène de crime, mais extrêmement précis. Ça, franchement, je ne connais personne, même dans les enquêteurs qui ont travaillé sur ces affaires-là, qui puissent être à même de refaire une scène de crime à main levée comme ça, avec tous les détails. Lui, il me fait ça. Il me situe l'auteur du crime qui n'est pas lui, donc un autre, donc il marque autre. Et c'est quelque chose qui va être récurrent dans son discours après pour tous les crimes pour lesquels il va être impliqué, tous les homicides. C'est jamais lui qui commet les meurtres, c'est toujours un autre. Lui, il a la malchance d'arriver au moment où le meurtre s'est commis ou vient de se commettre. Donc il est capable de vous décrire tout ce qui se passe, mais c'est pas lui qui agit. Alors évidemment, il évite de se mettre dans un schéma. Et à un moment, je lui dis, mais écoute, toi, t'étais où pour voir tout ça ? Ben, il me dit là. Et à ce moment-là, l'autre disparaît dans son discours. Et quand il parle aussi, quand il décrit la scène de crime, ce qui est très étonnant, c'est qu'il va la décrire en parlant au présent. Comme s'il était hypnotisé. Tu vois. Il explique, je vois ça, il est là, il fait ça. La victime dit ça. Il va redonner les dernières phrases de la victime. Et qui sont des fois des éléments qui sont très très orientants, parce que ça vous donne des éléments de biographie. La victime va parler de son fils ou de quelque chose comme ça. Enfin, ouais, lui, il n'est pas censé savoir ça. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas parus dans la presse. C'est des éléments extrêmement secrets, en fait. Francis Holmes, on ne lui montre rien. C'est lui qui vous donne les éléments. Et non seulement il vous donne des éléments, mais souvent, c'est des éléments que vous n'avez même pas, ou les enquêteurs n'ont même pas capté sur les scènes de crime. Il va falloir aller chercher, par exemple, le contenu d'un portefeuille d'une victime. Et il vous dit ce qu'il y a dedans. Parce qu'il reste sur place après avoir tué, généralement. Un petit moment pour observer les choses. Et des fois, il vous donne comme ça des éléments qui sont incroyables. Ou du genre, la bouteille de bière que j'avais bu avant, je l'ai enterrée juste sous l'arbre qui est juste à côté. Et en fait, effectivement, on retourne sur la scène de crime, on creuse sous l'arbre, on va trouver la bouteille de bière qu'il avait enterrée. C'est des trucs improbables. Et il a une mémoire un peu autistique, c'est-à-dire qu'il a une mémoire photographique, mais qui va très loin dans le détail. Il vit tellement intensément ses meurtres qu'il est imprégné de ça, mais jusqu'au fin fond du détail. Donc c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui n'a pas la capacité de créer un mensonge, sauf à mélanger des choses qui existent. Et pour lui, c'est mentir. En fait, Francis Holmes, ce dont je me suis aperçu, c'est que ses crimes, c'était pas... avec comme caractéristique l'extrême violence, mais surtout la vulnérabilité de la victime. Lui, ce qui le fait passer à l'acte, notamment, c'est le fait qu'il puisse repérer quelqu'un à qui il peut faire ce qu'il veut. Alors, ça peut être un homme, une femme... Un enfant, c'est plus facile parce qu'il est grand et fort par rapport à un enfant. Mais autrement, des fois, j'ai retrouvé des victimes qui étaient aussi costauds que lui, voire plus. Mais pas de chance pour elles. Elles étaient assises sur un banc. Elles n'ont pas vu arriver. Il est arrivé avec une barre de fer, etc. Donc des choses qui font que la victime n'a aucune chance. Lui, il le sait puisqu'il a déjà préparé mentalement son agression. Quoi. Il est dans son schéma. Il se projette. C'est la vulnérabilité que je vais repérer comme étant un élément constant des victimes. C'est pas des victimes lambda. C'est des gens qui se sont retrouvés à un moment donné au mauvais endroit ou dans une situation où ils fassent qu'elles soient victimes, quoi, possible. Après, on a une notion d'espace. C'est quelqu'un qui a une très très bonne maîtrise de son environnement, quel qu'il soit. On n'a qu'à repenser à comment il calculait sa pièce quand je l'ai contrôlé la première fois en Normandie. Il était en train de vérifier tout ce qu'il pouvait vérifier s'il avait besoin de partir. Et bien, il est comme ça en permanence. Donc, généralement, il agresse dehors, mais il va aussi agresser des gens, les suivants, en les agressant chez elles. C'est arrivé, par exemple, aux deux petites dames âgées qu'il a tuées à Charleville-Mézières. Alors, il en a tué une, puis une deuxième est arrivée ignorant que sa copine était en train d'être agressée, sa voisine, et il l'a tuée à son tour. Enfin, Francis Holmes, c'est ça, une notion des espaces très précise, l'instinct, enfin, la vulnérabilité des victimes, et puis l'extrême violence qui dérive ces meurtres. Alors, Francis Holmes, quand il me raconte ces meurtres, il avoue pas, en fait. Et comme je vous disais tout à l'heure, il s'est remis en situation pour Brest en voyant, en ayant ses yeux rouges, etc. Il a des pensées comme ça, un peu fantasmatiques. C'est lié à la sexualité. Hein. On a tous une sexualité. Bah, lui, il en a une, mais elle fait défaut parce qu'elle s'exprime pas normalement. Il a une anomalie génétique, c'est-à-dire qu'il a un chromosome féminin dans son ADN, en plus, ce qui entraîne en fait une ambivalence sexuelle et une incapacité d'avoir des rapports sexuels comme un homme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas éjaculer. Et mais il a ce besoin. Donc du coup, on peut comprendre que ça le crispe, ça peut expliquer cette image qu'on a de lui sur les vieilles photos en tout cas, parce que maintenant il a un traitement, de cette grimace permanente là. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Et dans les meurtres, on va retrouver cette connotation sexuelle. Toutes les victimes ont ou été déshabillées, ou violées, mais pas par lui, mais il a imposé le viol à quelqu'un, par quelqu'un d'autre. C'est quand même incroyable, il arrive à trouver ça, des gens susceptibles de l'aider. En fait, sa frustration, il l'a fait exprimer par d'autres. Et puis, il va ou déshabiller partiellement ses victimes, ou totalement. Enfin, il y a toujours une connotation sexuelle. Alors que quand vous parlez avec lui, il vous dira « Ah non, moi le sexe, pour moi, c'est rien ». Ce sont ces mots. Hein. Je suis pas un sadique, sous-entendu. Quelque chose de sexuel, c'est quelque chose de sale, sadique. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est son point de vue. Et en réalité, c'est une forte part de son passage à l'acte. Quoi.
Francis Holmes n'exprime ni fierté ni remords lorsqu'il parle de ses victimes. Il ne regrette pas ses actes, il ne pleure pas. Il ne semble jamais écrasé par le poids de la culpabilité. Mais Francis Holmes a une excellente mémoire, et c'est en distillant de macabres détails qu'il signe indirectement ses aveux.
Et je peux vous dire, il y a même des scènes extrêmement glaçantes. Il a tué un petit garçon de 8 ans dans le sud de la France, un petit Belge qui est en vacances avec ses parents dans un camping. On va retrouver son corps à une douzaine de kilomètres de la mer, puisqu'il a été amené par quelqu'un d'autre, enfin un complice à lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a amené Francis Holmes dans un camping, qui a demandé à Francis Holmes de l'attendre dans la voiture. Lui, il est allé faire une course parce que Francis Holmes était à l'époque dans un centre psy. Il y a un gamin qui est passé à côté de la voiture. Francis Holmes l'a attrapé, l'a étranglé, l'a mis entre les deux sièges à l'arrière. Quand le propriétaire de la voiture, enfin quand le collègue est revenu, le gars de l'hôpital est revenu, il ignorait qu'il y avait un enfant dans la voiture. Il est parti et à ce moment-là, l'enfant a repris connaissance. Et du coup, il a été complètement menacé par Holmes, etc. Ils sont allés déposer le gamin dans la nature, et là, Francis Holmes l'a tué. C'est des scènes incroyables. Et Francis Holmes, aux assises, va être confronté au légiste qui va expliquer que le gamin a été torturé en prenant des coups de tournevis, et il donne un chiffre en disant 83. Et Francis le reprend en disant non, 84. Donc il sait exactement ce qu'il fait. Francis Holmes a déjà du trouble du comportement, c'est quelque chose qui s'est inscrit depuis le départ. Donc il a une scolarisation qui est assez chaotique, et il commence à avoir des comportements inadaptés, d'actes d'automutilation, de choses qu'il commet dans ses quartiers, qui fait qu'à un moment, on va l'amener à vivre chez sa grand-mère. Le couple parental, il fonctionne mal, donc le père pense partir... Sa mère, Francis Holmes, développe un cancer et va décéder. Ce qui va être la bascule totale dans la vie de Francis Holmes, parce qu'en fait, sa mère, elle le protégeait. Mais au-delà de l'amour d'un enfant, c'est quelqu'un qui avait probablement déjà commencé son parcours criminel. Enfin, je le sais. Et c'est pas avéré, puisque c'est pas sorti, c'était prescrit. Donc on n'a pas été chercher sur ces dossiers-là. Mais on en a notamment un où elle était vivante. Et on a aussi un témoignage d'une tante à Holmes qui dit qu'effectivement, il savait. Donc en fait, ils ont caché des choses qu'il avait commis, et ce que le père ignorait, par contre. Et ça, la bascule, ça a été que quand la mère est décédée, il s'est retrouvé sans protection. Le père a essayé de le faire travailler comme apprenti dans sa structure, et Francis Holmes s'est mal comporté. Avant le meurtre de Montigny-les-Metz, qui est le meurtre de deux enfants sur une voie de chemin de fer, il avait déjà signalé des morts sur une voie de chemin de fer dans l'entreprise où travaillait son père, ce qui a provoqué son licenciement. Enfin, donc, il avait un comportement déjà inadapté, quoi. Il ne tenait pas en place et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à partir de foyer en foyer et sur les routes. Son père a amené Francis Holm au centre psy de Jury-les-Metz, qui est l'établissement spécialisé là-bas, à Metz, pour demander à ce qu'on s'en occupe. Et c'est là qu'on en avait déjà diagnostiqué les troubles du comportement. Les médecins ont acté ça en disant « Écoutez, c'est pas une pathologie, ça se soigne pas. Il est comme ça, on peut rien y faire. » Et le père a menacé les médecins en disant « Écoutez, s'il arrive quelque chose ou s'il fait quelque chose, bah c'est vous, en fait, qui serez les vrais responsables. » Et ça, on est dans les années 84. Bien sûr qu'il a conscience de ce qu'il a fait, ça c'est clair. De son comportement, ben non, je pense qu'il lui est comme ça, il est comme ça, il n'a pas non plus les ressources de s'auto-analyser ou de comprendre. Non, il se présente comme quelqu'un de malade. Il dit c'est pas de ma faute, parce qu'en gros je peux pas m'empêcher, et du coup je tue. Alors lui il appelle ça des pépins, parce qu'il y a des mots tabous, hein, enfant il peut pas dire, sexe il peut pas dire, et meurtre non plus. Donc non, il est conscient qu'il fait des choses extrêmement graves, il est cruel, et d'ailleurs il en prend plaisir. Mais c'était une nécessité quelque part. C'est une transformation. Enfin, c'est une expression de cette sexualité qui peut pas, à laquelle il pouvait pas accéder, qu'il a mis en musique en tuant des gens. Mais il en est conscient de ça, archi conscient. Lorsque je l'entends de manière définitive sur le meurtre de la femme à Brest, donc il me dit, Brest, c'est un pépin. Il dit pas qu'il a tué, il dit, c'est un pépin. Et je dis, t'as eu d'autres pépins dans ta vie? Ah, bah oui. Donc c'est clair qu'il vient d'expliquer qu'il avait tué plein de gens. Moi, je n'ai pas été le contrarier en disant « Attends, c'est pas un pépin, c'est un meurtre ». À l'inverse, par contre, ce que ça veut dire, enfin moi, tel que je l'ai ressenti, c'est si lui estime que c'est un pépin, alors attention, qu'est-ce que c'est que quelque chose de grave dans son esprit? Ça montre le niveau de dangerosité de Holm. C'est-à-dire que lui, il avait banalisé le meurtre. C'était finalement un pépin. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Ces meurtres sont extraordinaires, mais au sens propre, extraordinaires. Tous les gens qui ont travaillé sur son parcours criminel, dans chaque coin, à chaque fois il y a un juge d'instruction, à chaque fois il y a un légiste, à chaque fois il y a une autopsie, tous sont choqués par ce qu'ils ont vu. Chaque affaire qu'il a commise pour ces enquêteurs-là, au sens large, ce sera l'affaire la plus originale, la plus grave qu'ils aient croisée au niveau de la violence. En prison, il va très bien. Il me dit, il est dans une centrale à Emsichheim, en Alsace, une prison faite pour des gens extrêmement dangereux, ou des très longues peines. Et il me dit, tiens, il y a deux qui ont essayé de s'évader, mais ils sont fous, on est bien là-bas. On mange bien, j'ai une télé, j'ai du travail et tout. Il est bien. Et je dis, et autrement, c'est pas trop long. Ben non, j'attends. Cette notion du temps-là, c'est toujours pareil. Ça glisse, c'est-à-dire que cette détention-là, il ne la voit pas passer. Alors Francis Holm, il a des fan clubs, il y a des gens qui essaient d'être en contact avec lui pour dire qu'ils sont en contact avec des tueurs en série. J'ai reçu un courrier d'une journaliste canadienne qui écrit un livre sur des tueurs en série nord-américains en me disant « Mais écoutez, vous pouvez me décrire Francis Holm ?» J'ai dit « Attendez, c'est pas un tueur en série nord-américain ?» Et en fait, il communiquait avec un tueur en série nord-américain. Il est content de son statut. Il y a une étudiante qui lui écrit apparemment tous les jours. Il m'avait demandé, quand je l'avais vu sur le banc de correctionnel en tant que témoin, là, et il m'avait demandé de faire une enquête pour lui. Il me dit « Tu peux pas faire une enquête pour moi ?» J'ai dit « Qu'est-ce qui arrive ?» Franchement, j'étais étonné. Et c'est parce qu'une femme lui proposait de le recueillir à sa sortie de prison et puis éventuellement de se marier avec. Donc il me voulait savoir qui c'était, quoi. Je n'en revenais pas. Enfin, c'est toute la vie des stars en prison. Enfin, des stars du crime.
Aujourd'hui, Francis Holm attend. Il attend, en prison, une libération qui ne viendra sans doute jamais. Cette incarcération, il la vit bien. Il a ses amis, il a ses fans, et il a même une certaine forme de confort. Un confort qui ne saurait être perturbé par quiconque.
Alors en prison, donc il a un comportement exemplaire. Maintenant, moi, il a été détenu à Brest pour la première fois, après avoir été arrêté à Strasbourg, on l'a amené à Brest, où il y a eu l'instruction judiciaire, puis après il a été transféré à Reims. À Reims, donc je vais le voir tous les 15 jours dans le cadre des auditions qu'on avait à prendre. Et un jour, il arrive complètement perturbé pour me dire que ça allait pas du tout parce qu'il avait un co-détenu qui était Dixit, hein, jargon de voyous, qui était un pointeur, donc quelqu'un, un agresseur sexuel, et que lui, ça supportait pas ça et que ça allait pas le faire. Et puis, 15 jours après, je reviens le voir, et puis il était plus détendu, et je lui dis, bah alors, ton co-détenu est parti, ou t'as changé de cellule, et il me dit, non, il est mort. Mais toujours de manière très froide, comme on a parlé tout, enfin, la même façon de s'exprimer qu'on connaît. Donc, il s'est pendu, et il me dit, moi, c'est pas moi, je le remets. Quand les gardiens de prison sont rentrés le matin, quand ils l'ont vu mort, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai répondu, c'est pas moi, il n'y a pas mes empreintes. Voilà, c'est Francis Hone. Puis après, 15 jours plus tard, il me dira, il était 3h23.
Vous venez d'écouter le troisième épisode de la saison 2 des Voix du Crime, consacré à Francis Hone, avec le témoignage de l'enquêteur Jean-François Abgral. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Jean-Alphonse Richard avec une nouvelle Voix du Crime. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes des Voix du Crime et de nos autres podcasts sur notre site rtl.fr.